Zone Marine, portrait de gens de mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons. Vous allez entrevoir tout un univers, du littoral à la haute mer en passant par le monde sous-marin. Écoutez, vous entendez déjà le bruit de la mer et l'odeur d'iode commence à vous chatouiller les narines. Alors, embarquez avec nous.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, voilà, tout devant derrière. Ok.
À la plage arrière de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Je m'appelle Hervé Le Goff, j'ai 70 ans et je suis retraité depuis 3 ans de mon poste d'ingénieur océanographe dans un laboratoire du CNRS. Le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Alors, je suis breton d'origine et j'ai découvert la mer en commençant à faire de la voile sur des rivers quand j'étais gamin. Après, j'ai fait pas mal de planches à voile et aussi de la plongée sous-marine. Côté formation, alors j'ai une formation d'ingénieur en construction navale et c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à naviguer sur des navires de commerce de la marine marchande. Ensuite, j'ai fait un doctorat en énergétique sur les cycles de pompes à chaleur. Alors dans les années 80, les pompes à chaleur, ça démarrait, c'était en plein essor. Et après mon doctorat, j'ai embauché une première fois comme ingénieur au CNRS pour justement développer des applications de pompes à chaleur pour les bases polaires en Arctique et en Antarctique. Et plus récemment, depuis 2004, là, j'ai été ingénieur dans un autre labo CNRS d'océanographie cette fois. Et donc à cette occasion, dans le cadre de ce travail, j'ai participé à de nombreuses missions en mer, sur des navires scientifiques, sur tous les océans du monde et en particulier en région polaire. En parallèle de ce parcours professionnel, j'ai été, on va dire, marin voyageur, avec ma compagne qui est aussi marin. Et au total, on a vécu et voyagé autour du monde pendant une dizaine d'années sur nos voiliers successifs. D'abord à deux, et ensuite en famille, avec nos deux filles. Donc, en formation initiale, j'ai fait une école qui s'appelle l'ENSTA, l'École nationale supérieure des techniques avancées, dans une option génie maritime. Alors, c'est une école d'ingénieurs en 3 ans, qui recrute sur concours après 2 ans d'année préparatoire. C'est le même concours que l'école des mines. Mais à partir de la deuxième année, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi des officiers de la Marine nationale en formation continue et des polytechniciens en filière d'application pour devenir ingénieurs de l'armement. Donc ça fait des promos assez marrantes, quoi, qui intègrent des gens très très différents avec notamment un mélange civil et militaire qui est, on va dire, assez surprenant. C'est une formation qui est très polyvalente. On apprend bien sûr l'architecture navale, c'est-à-dire on apprend à dessiner et concevoir un peu tous les types de navires, des cargos, des pétroliers, des paquebots, des voiliers, des plateformes offshore, etc. On apprend aussi les techniques de construction dans tous les matériaux, l'acier, l'alu, le fer au ciment. Et donc on fait de la résistance des matériaux et des calculs de structure. On apprend aussi la conception mécanique pour la propulsion des navires et la production d'énergie à bord, énergie électrique, énergie hydraulique. On a des cours d'électronique et d'informatique, ça démarrait à l'époque, pour les appareils de navigation, les instruments de télécommunication et de contrôle. On fait aussi un petit peu de droit maritime et de réglementation. Voilà. Alors ça, c'est la partie théorique. Et après, pour la pratique, c'est très simple, on fait des stages embarqués sur des navires comme élèves. Moi notamment, j'ai embarqué sur un vieux cargo vraqué des messageries maritimes. Les messageries maritimes, c'était la compagnie de l'époque. Maintenant, c'est devenu la CMA-CGM, bien connue. Et donc, justement, ce navire-là, il transportait du granit entre l'Afrique du Sud et l'Europe. Alors moi, en tant que Breton, je me suis demandé, mais on a plein de granit en Bretagne, pourquoi on va le chercher en Afrique du Sud ? Eh bien, c'est qu'en 1975, la mondialisation avait déjà commencé. Et alors, sur ce vieux bateau, j'ai fait pas mal de quarts à la machine, et donc j'ai découvert les vieux diesels qu'on appelait les diesels cathédrales. C'était des moteurs qui faisaient 10 mètres de haut. Quand il fallait intervenir pour réparer, on rentrait dans les cylindres, carrément. Et c'était des moteurs très lents qui tournaient à 100 tours par minute. Donc ça, c'est une technologie qui a complètement disparu aujourd'hui. Et pour mon projet de fin d'études, j'ai embarqué sur une plateforme pétrolière offshore en mer de Norvège. Bon, et là, on va dire mauvaise expérience. J'ai vécu des conditions de travail très discriminatoires entre les ingénieurs blancs, comme moi, et les ouvriers non blancs. En l'occurrence, là, c'était des Indiens et des Pakistanais, et c'est eux qui se tapaient toutes les tâches dangereuses. Et notamment, pendant mon stage, là, j'ai été témoin d'un accident mortel. Évidemment, les boulots dangereux étaient interdit aux ingénieurs blancs. Ben pourquoi ? Parce que la vie d'un ingénieur blanc, ben ça vaut plus cher que la vie d'un Indien. Et donc suite à ça, ben j'ai décidé de ne jamais travailler dans l'industrie pétrolière offshore. Et on sait que ce type d'esclavagisme, je ne mâche pas le terme, continue encore aujourd'hui dans l'offshore pétrolier. Alors en sortie d'école, en sortie d'ENSTA, on a obligation de faire son service militaire dans la marine. Bon, à l'époque, le service militaire, la conscription était obligatoire. Donc, j'aurais dû être officier de marine sur un bateau gris avec des canons. Et j'ai refusé. J'ai demandé mon statut d'objecteur de conscience qui, évidemment, m'a été refusé. Et donc là, par hasard, par chance, j'ai découvert une solution alternative qui était en gros de faire un service civil comme marin sur les bateaux du père Jaouen. Alors le père Jaouen, Michel Jaouen, c'était un père jésuite qui était aumônier des prisons à l'époque. Et il avait constaté que dans ces années-là, là, les années 70, les sortants de prison et les toxicomanes n'étaient pas du tout pris en charge par la société. Soit ils retournaient en taule, soit ils finissaient en hôpital psychiatrique, etc. D'où l'idée du père Jaouen de les emmener vivre une nouvelle vie en mer, sur des bateaux où ils pourraient s'intégrer à l'équipage, rencontrer plein de gens différents parmi les passagers. Bon, c'était une idée complètement novatrice à l'époque, et ça a très bien fonctionné, et ça fonctionne encore aujourd'hui, l'assaut continue. Donc, j'ai embarqué sur le Rara Avis, un gros bateau, hein, un voilier 3 mâts goélette de 30 mètres. On était 35 à bord pour la première traversée, un tour de l'Atlantique en 6 mois, via les Canaries, Cap-Vert, Antilles, retour par les Açores. Et au total, je suis resté 14 mois à bord, d'abord comme mécanicien et j'ai fini comme commandant. Donc ça a été une super expérience pour moi, à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue technique. À l'époque, j'avais 23 ans, j'étais bac plus 5, enfant de la bourgeoisie intellectuelle, on va dire. Et donc, à bord, là, j'ai découvert que des jeunes de mon âge n'avaient pas du tout eu les mêmes chances que moi, mais qu'on pouvait faire de belles choses ensemble pour les aider à sortir de leur galère. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que le deuxième navire de l'assaut du père Jaouen avait été baptisé sous le nom de Bel Espoir. Voilà. Et côté expérience technique, Rara Avis et Bel Espoir, c'est deux gros voiliers, hein, 30 mètres, 150 tonnes, très très rustiques, et qu'il faut faire marcher quoi qu'il arrive, vu qu'on a du monde à bord. Donc j'ai beaucoup appris au niveau entretien et réparation des machines, du gréement et aussi des manœuvres, parce que c'est des gros navires à manœuvrer. Donc comme complément pratique de ma formation théorique d'ingénieur naval, c'était parfait. Donc après mes années de navigation sur les bateaux du Père Jaouen, avec ma compagne qui est aussi marin, hein, on a décidé d'acheter un bateau pour partir en voyage. Il se trouve que avant d'avoir ces gros bateaux, le Père Jaouen avait commencé ses activités avec un bateau beaucoup plus petit, un petit cotre de 13 mètres, qui s'appelait d'ailleurs déjà Bel Espoir, et qu'il avait revendu. Or, quand on cherche, on tombe sur une annonce comme quoi le petit Bel Espoir est à vendre en Belgique et pas cher. On y va, et coup de cœur, on signe sans trop réfléchir en fait. Donc ce petit cotre en bois à gréement traditionnel, ce qu'on appelle le gréement aurique, il datait de 1923. Il avait d'abord travaillé comme bateau pilote en Bretagne, et en fait il n'avait jamais été vraiment bien entretenu. Donc conséquence, le bateau était en mauvais état, et un gros travail de rénovation nous attendait avant de pouvoir partir naviguer. Alors j'ai contacté un copain, Boutbois. C'est le surnom d'un un copain charpentier marine que j'avais connu dans l'équipe Jaouen. Et c'est grâce à lui que on a rénové le bateau et surtout qu'il m'a beaucoup appris sur la réparation des coques traditionnelles en bois. Chose que, évidemment, je n'avais pas appris à l'école du génie maritime. Et donc, au bout de 6 mois de travaux, quand même, à Anvers, en Belgique, on est parti vers le sud. On a commencé en faisant de l'école de voile avec une association qui était basée à l'Île-Dieu. Et ensuite, après quelques nouvelles réparations, on est reparti tous les deux pour un projet de traverser l'Atlantique vers les Antilles. Mais on s'est rapidement rendu compte que le bateau n'était pas vraiment adapté à ce projet. En gros, naviguer au long cours à deux à bord, ça signifie qu'il y en a un qui est tout seul de quart sur le pont, pendant que l'autre dort, se repose. Or, sur ce vieux bateau traditionnel, les manœuvres de voile en solo étaient assez fatigantes, voire dangereuses carrément par vent fort, parce que vraiment traditionnel, il n'y a pas de treuil, il n'y a pas de winch, on fait tout au palan. Il n'y avait pas de pilote automatique à bord, donc on était quelque part, on était scotché à la barre, quoi, tout le temps. Et donc, dès qu'on avait besoin d'un coup de main sur le pont, il fallait réveiller l'autre. Et enfin, malgré les travaux de réparation qu'on avait faits, la coque continuait à faire de l'eau, à fuir. Et donc, quand on terminait le quart à la barre, avant d'aller dormir, il fallait encore aller pomper, assécher à la pompe à main. Donc, tout ça fait qu'on décide de retour au port en Bretagne et on va essayer de trouver un bateau plus récent, plus costaud et surtout étanche. Donc, on cherche un nouveau bateau et on trouve alors un voilier de 11 mètres, alors cette fois-ci en acier, donc par définition costaud et étanche. Et ce petit voilier revenait juste d'un voyage aux Antilles par un jeune couple qui l'avait en partie construit. Donc là, c'est bon choix. On part directement pour le Brésil et pour l'Argentine. Le bateau est en bon état, il est assez rustique, donc il est simple à manœuvrer et à entretenir. Il a ce qu'on appelle un régulateur d'allure, c'est un pilote automatique qui marche avec le vent, donc on n'est plus scotché à la barre comme sur le Bel Espoir. Donc à deux à bord, c'est que du bonheur. Donc on décide d'avoir un petit marin à bord. Et donc notre première fille, Sarah, voit le jour en Argentine. Et on commence à naviguer avec elle, elle avait un mois, quoi. On remonte au Brésil, là je m'arrête un peu, je travaille pendant 8 mois comme enseignant-chercheur à l'université de São Paulo. Et là on redescend vers le Grand Sud, alors Ushuaia, Cap Horn, les canaux de Patagonie, où on passe un été et puis un hiver. Et c'était super parce qu'à l'époque, donc c'était en 89, il n'y avait pas encore de tourisme dans ces coins-là. Il n'y avait pas les gros paquebots comme il y a maintenant. Donc on a passé une période vraiment tranquille, peinard, dans des paysages fantastiques, quoi. Et à Ushuaia, on rencontre des copains qui avaient un voilier plus gros que le nôtre et avec à bord leur fille qui avait l'âge de la nôtre de Sarah. Donc on décide tous les 6 en famille, sur leur bateau donc, d'aller faire un tour en péninsule antarctique. La péninsule antarctique, c'est la partie de l'Antarctique qui est la plus accessible en été. C'est à 600 000, 1000 km au sud du Cap Horn, donc c'est tout à fait faisable avec un petit voilier. Et donc les deux filles sont devenues capornières à l'âge de 2 ans, et pendant un mois et demi qu'on a passé en Antarctique, elles ont pu approcher des phoques, des baleines, des manchots. Mais d'ailleurs, les manchots, ils faisaient à peu près leur taille. Donc ensuite, après ce voyage en Antarctique avec les deux familles, on est reparti sur notre petit bateau vers les îles Malouines. Alors les îles Malouines, les Falklands en anglais, ça se situe juste dans le sud-est de l'Argentine. Et là, il y avait d'autres copains marins qui s'étaient installés dans une ferme et qui avaient aussi des jeunes enfants. Donc on a passé 6 mois avec eux. Alors sur la ferme, on a travaillé sur la ferme avec eux. Il y avait 2000 moutons à gérer. Et moi, j'ai embarqué comme second sur le voilier de mon copain et on a été faire une mission scientifique de comptage de taris sur l'île de Géorgie du Sud. C'est une île qui est située au milieu de l'Atlantique Sud, en région subantarctique. Bon, là, on en était à 4 ans de vadrouille, donc on décide de rentrer en France. Alors la traversée retour depuis les Malouines jusqu'en France, ça nous a pris 3 mois avec seulement 3 escales, hein, Argentine, Brésil et Açores. Alors on rentre en France et on va y rester 5 ans. Là j'embauche comme ingénieur au CNRS dans le labo où j'avais passé ma thèse et je lance un projet de pompe à chaleur pour les basses polaires. Donc l'objectif, c'était de monter des prototypes à la station française de Dumont-d'Urville en Antarctique et aussi dans une station météo en Arctique russe. Alors c'était en 92, donc c'était juste la fin de l'URSS et c'était l'occasion de développer des super collaborations avec les équipes russes parce que ça s'ouvrait. Et donc là, j'ai eu l'occasion de naviguer sur des brise-glaces russes. Et 1992, c'est aussi l'année de naissance, en France cette fois-ci, de notre deuxième fille, Magali. Et donc, on décide de repartir voyager en bateau, en famille, donc là, avec nos deux filles, et donc forcément sur un voilier plus gros que le précédent. On trouve une goélette de 15 mètres en acier, acquis relevable, en plus avec un gros moteur, hein, 140 chevaux. Donc on commence par une mission de comptage d'oiseaux et de mammifères marins avec des copains biologistes à bord au Spitzberg. Le Spitzberg, c'est une des îles norvégiennes les plus au nord dans l'océan Arctique. C'est à 1000 km du pôle Nord. Et d'ailleurs, on a apprécié d'avoir une coque en acier costaud taillée pour la glace parce qu'à cette époque-là, en 1994, il y avait encore pas mal de banquises, même l'été, autour du Spitzberg, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc ensuite, on fait route vers le sud. On retrouve l'Argentine, la Patagonie et Ushuaia. On passe un hiver dans les canaux chiliens de Terre de Feu. Et puis on part pour l'île de Géorgie du Sud, où j'étais déjà allé une fois. Alors dans cette île, il y a eu une grosse activité de chasse baleinière au 19e et au 20e siècle. Ça s'est arrêté en gros dans les années 60. Et donc en 1996, quand on arrive là-bas, il y avait un musée baleinier qui était juste en train de se créer. Alors un musée baleinier pour les touristes de passage en paquebot, hein. Et comme on avait un gros bateau qui pouvait charger du lourd, hein, des grosses charges, on a travaillé pour ce musée à collecter des vestiges divers dans les bases baleinières abandonnées tout autour de l'île. Ensuite, on quitte la Géorgie, on fait route carrément vers l'hémisphère nord, donc on retraverse l'équateur. Et on arrive au Groenland, où là, on rejoint des amis qui ont le même bateau que nous, là, la même goélette polaire, et qui ont décidé d'aller passer un hiver pris dans la banquise, dans une île canadienne, très au nord, là, l'île d'Ellesmere. Donc on les accompagne jusqu'au site d'hivernage, les deux bateaux, pour leur transporter tout le fuel et toute la nourriture dont ils allaient avoir besoin pour les 8 mois en autonomie. Mais par contre, on ne passe pas l'hiver avec eux. Pourquoi ? Parce que nos filles avaient envie d'avoir de vrais copains et pas uniquement des phoques et des pingouins, quoi. Donc on redescend vers Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont les seules îles françaises en eau canadienne. Et donc îles françaises, elles vont pouvoir aller à l'école, éducation nationale. Donc l'année 2000, on l'a faite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et l'été suivant, on décide de rentrer définitivement en France, où les filles vont reprendre un parcours scolaire classique. Parce que pendant toutes les années en bateau, en fait, on leur faisait l'école à bord. Quand on est rentré, Sarah avait 12 ans et Magali 8 ans. Donc je trouve un labo d'océanographie à Paris qui s'appelle l'Océan. Ils étaient très intéressés en fait par ma double compétence à la fois de marin et de scientifique. C'est pour ça que j'ai eu le poste. Donc dans ce gros labo, on est environ 200 personnes, entre chercheurs, personnel technique et étudiants, doctorants. Qu'est-ce qu'on étudie ? Ben, on étudie les océans et surtout leur lien avec le climat planétaire. Alors il faut savoir que les océans recouvrent 70% de la surface de la planète et donc ils constituent un élément prépondérant dans le fonctionnement de la machine climatique. Bon, et on sait très bien que la machine climatique s'emballe là depuis le 19e siècle, le début de l'ère industrielle. Donc il faut étudier et prévoir ces évolutions à la fois d'un point de vue physique et aussi chimique et biologique. On bâtit des modèles théoriques pour prévoir tout ça, mais les modèles théoriques, il faut les alimenter avec des données d'observation réelles, des mesures. Depuis une trentaine d'années, les observations satellites apportent énormément, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'un satellite, il fait ce qu'on appelle de la télémesure optique ou radar, mais ces télémesures, il faut les calibrer avec des mesures faites réellement dans les océans. Et surtout, un autre inconvénient entre guillemets des satellites, c'est qu'ils ne voient pas sous la surface de l'eau. Donc il faut faire des campagnes de mesure à partir de navires océanographiques qui vont aller mesurer plein de paramètres physico-chimiques, biologiques, dans les océans jusqu'au fond de la mer, dans l'atmosphère au-dessus du navire et aussi sous la banquise dans le cas des missions polaires. Donc dans ce labo, l'océan, j'ai pris le poste de responsable de l'équipe qu'on appelait technique et instrumentation à la mer. Ça signifie quoi ? Je prends un exemple. Une équipe de chercheurs souhaite développer un projet d'étude dans une zone donnée de l'océan mondial. Ils viennent le présenter à notre équipe, l'équipe technique, et ensemble, on va décider de l'instrumentation de mesure nécessaire, des protocoles à appliquer, du type de navire adapté aux campagnes, et surtout du nombre et type de personnel qui va être nécessaire pour faire tourner tout ça. Ensuite, l'équipe technique achète et prépare le matériel, réserve le navire, organise les plannings de campagne, et après, on va participer aux missions embarquées. Les gros projets sont en général montés par des collaborations internationales. Donc très souvent, on se retrouve à travailler à l'autre bout du monde, à bord d'un navire étranger, avec des collègues de multiples nationalités. C'est un super boulot. Par contre, c'est très chronophage. Moi, par exemple, chaque année en moyenne, j'ai passé 3 à 4 mois en mer, en plus du temps passé au labo à Paris, et notamment pour traiter les résultats des mesures et les mettre en base de données. En 2006, j'ai participé à une expédition dans la banquise arctique, à bord d'un gros voilier scientifique qui s'appelle Tara. Alors Tara, c'est une goélette de 30 mètres. La coque est en aluminium très épais parce qu'elle a été spécialement conçue pour se faire prendre dans la banquise. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est parti de Lorient en Bretagne, on est monté au nord de la Norvège, le passage du Nord-Est jusqu'en Russie, en Sibérie. Et là, accompagné par un brise-glace russe qui nous ouvrait la route, on est monté plein nord dans la banquise en fin d'été et on s'est laissé emprisonner par la glace qui se reforme tous les automnes. Donc Tara a commencé à dériver avec la banquise parce qu'il y a un courant permanent dans le bassin arctique qui traverse depuis le détroit de Bering jusqu'au Groenland. Et bon, évidemment, c'est un courant très lent. Hein. On faisait en moyenne 10 à 20 km par jour. Au total, la dérive a duré 500 jours, un an et demi, hein, jusqu'à la sortie des glaces au large du Groenland. L'objectif scientifique de cette mission, c'était de documenter l'évolution du bassin arctique avec le réchauffement climatique. Alors, on savait déjà à l'époque que les régions polaires arctiques et antarctiques se réchauffaient beaucoup plus vite que l'ensemble de la planète et que, du coup, ça impacte le climat global de la planète un peu dans un genre de cercle vicieux. Et notamment en Arctique, qui est donc un océan couvert de glace, la surface de la banquise estivale diminue de 13% par an, c'est énorme, et les modèles prévoient qu'elle pourrait disparaître complètement vers 2035. Donc, pendant les 500 jours emprisonnés dans cette banquise, on a mesuré l'évolution saisonnière, été-hiver, là, des paramètres physico-chimiques de l'océan sous la glace, avec des instruments sous-marins, de la couche de glace, la couche de banquise, et aussi de l'atmosphère au-dessus, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, avec un ballon captif qu'on déployait avec des capteurs météo. Moi, au total, j'ai passé un an à bord, dont 4 mois dans la nuit polaire, et j'étais responsable du programme scientifique. Alors à bord, on était 7 hommes et 3 femmes de 5 nationalités différentes. L'équipe comprenait 4 marins, 3 scientifiques, 1 médecin, 1 journaliste et 1 artiste photographe. Donc évidemment, on partageait toutes les tâches au quotidien, les tâches communes, la science et tout ça, et ça a été une expérience humaine fantastique. Et alors, en plus des 2 hotspots climatiques, comme on dit, que sont l'Arctique et l'Antarctique, donc qui se réchauffent plus vite que le reste de la planète, il y en a un troisième. Le troisième, il n'est pas loin de chez nous, c'est la mer Méditerranée. Alors pourquoi? Parce que c'est une mer fermée, avec le détroit de Gibraltar, et qui a fait communiquer avec l'Atlantique. Et c'est une mer qui est bordée au sud par le continent africain et ses déserts. Donc depuis 20 ans, moi j'ai participé à des missions régulières dans le bassin méditerranéen, avec toujours le même objectif de surveiller l'évolution rapide. Pour prendre un exemple concret, la couche de surface, là, les 50 premiers mètres, ils sont réchauffés de 1,5 degré en 12-15 ans. C'est énorme. Donc concrètement, tous les ans en été, on embarquait pendant un mois sur un des navires océanographiques de l'Ifremer et on allait faire la maintenance de toutes les lignes de mouillage instrumentées qu'il y a dans le golfe du Lion, qui est au large de Nice. Et pendant ce mois en mer, on déploie aussi des robots sous-marins autonomes qui vont faire des mesures jusqu'au fond. Et on fait aussi plein de prélèvements et des mesures dans la colonne d'eau. Alors notamment pour les biologistes, parce que les biologistes, ils étudient l'impact du réchauffement climatique sur l'eau de mer, mais surtout sur le plancton et sur toute la chaîne alimentaire qui démarre sur le plancton végétal. Et je continue à naviguer. Là, je participe à des missions à bord d'un bateau qui s'appelle Persévérance. Alors, c'est un voilier, encore une goélette de 42 mètres. Alors ça, c'est un projet qui est mené par Jean-Louis Etienne. Et ce navire, Persévérance, sera le navire ravitailleur du PolarPod. Le PolarPod, c'est une plateforme scientifique qui va dériver pendant 3 ans dans l'océan Austral, autour de l'Antarctique. Et Jean-Louis m'avait demandé d'équiper ce navire en instrumentation océanographique pour faire des mesures pendant les transits du bateau entre la plateforme PolarPod et la Terre. Et donc c'est ce que j'ai fait, installer du matériel scientifique à bord. Mais bon, le PolarPod n'est pas encore sorti de chantier et en attendant, on utilise ce navire pour faire des missions océanographiques classiques, on va dire. Et alors notamment, en janvier prochain, là, je vais embarquer pour une mission de 2 mois en mer de Ross. La mer de Ross, c'est un autre bassin côtier du continent antarctique, mais de l'autre côté, du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est une collaboration avec des collègues néo-zélandais et américains. On va aller relever des lignes de mouillage et on va faire aussi plein de relevés d'inventaire de faune parce que cette zone de la mer de Ross où on va, elle a été déclarée aire marine protégée il y a 10 ans, donc il faut faire le suivi. Et on va aussi passer à la base polaire française du Mont d'Urville en Terre Adélie. Eh ben, ça me rappellera des vieux souvenirs, des manip-pompes à chaleur des années 90.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, on a tout devant derrière. Ok.
Passage arrière de l'homme.
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Onde marine, portrait de Jean de Mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons.